Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite démogorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Bonsoir!
Salut!
Comment vous allez?
Moi, je suis un peu malade, ça s'entend pas, mais j'ai mal à la gorge.
Mm. Moi, j'ai envie de dormir.
Voilà, les mois se suivent et se ressemblent. Moi, ça va bien. Est-ce que vous savez qui vient de se rendre compte qu'il n'avait pas écrit le texte introductif?
Oui, c'est moi. Moi aussi, je me rends compte, je me dis, tiens, il est pas là.
Voilà, donc.
C'est parti pour l'impro.
Improvisé.
Ou tu reprends celui-là du mois dernier?
Non, j'ai plus le temps là.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, on va déjà passer à ce qu'on va voir le mois prochain. Non, pas du tout. Vraiment, le podcast qui va durer 2 minutes. Non, ce mois-ci plutôt.
Qu'est-ce qu'on choisit pour regarder comme.
Ce mois-ci, on va parler de. En place sur Netflix, on va parler de Ginny et Georgia sur Netflix aussi, et on va parler de Willow sur
Disney Plus.
Voilà. Comme c'était annoncé le mois dernier, il n'y a pas de sujet du mois ce mois-ci, mais on a énormément d'actu à rattraper. Parce que en décembre, on n'a pas fait. En janvier, on n'a pas fait. Non, c'est là janvier.
Ouais.
Donc, on n'a pas fait en décembre. Donc, on va commencer sans plus attendre avec de l'actu. Qui veut commencer à parler d'actu?
La première actu, c'est la fin, mais on en avait déjà parlé, je crois. C'est la fin du partage des comptes Netflix qui, effectivement, traînait dans les tiroirs depuis plusieurs mois. Et la plateforme a décidé de s'y mettre pour de bon, même si ça fait de même plusieurs fois qu'on répète ça. Mais là, ça sera dès avril où on ne pourra plus partager de comptes avec d'autres personnes qui ne vivent pas dans le même foyer que nous.
Ils vont nous géolocaliser, du coup?
Attends. et donc, je pense que ça va être mis d'abord en place aux US, vu ce que je lis.
Bah, je pense, c'est sûr.
C'est sûr, ok. Oui. Et ensuite, ça va être mis en place pour le reste du monde. Et donc, pour continuer à profiter du partage de comptes, il faudra payer plus d'argent, 3 ou 4 euros. Et pour détecter s'il y a différents comptes, c'est pas vraiment la géolocalisation, c'est encore flou. Netflix a potentiellement un partenariat avec Adobe qui va utiliser une IA pour analyser les comportements pour savoir s'il y a du partage de comptes ou pas. Mais du coup, il pourrait y avoir des problèmes dans des situations, notamment pendant un déplacement professionnel, des vacances, si t'as des résidences secondaires.
Genre les étudiants qui habitent une fois chez leurs parents, une fois à l'école.
Voilà, c'est
non, mais
la
en fait, ça n'a aucun sens.
Ah, mais ça va créer plein de problèmes.
Après, peut-être que ça va pas marcher et que ça va faire un flop.
Mm. Ouais.
Auquel cas, ils
Est-ce
laisseront
que...
tomber.
Qui est contre? Moi.
Moi.
Bah, moi aussi.
Voilà. Arrêtez ça
je pense
tout
pas
de
qu'ils
suite,
perdent
Netflix.
Vraiment d'argent en plus, donc c'est vraiment un truc.
Mais quitte à faire ça, autant enlever les comptes communs.
Ouais,
et
la
dire
limite,
tout le monde
qu'un compte par un
seul
écran.
Écran.
C'est ça.
Ouais, c'est tirer une balle dans le pied.
Bah, il y en aura juste moins d'abonnements et du coup.
C'est peut-être le plus logique, quoi. C'est genre maintenant, notre abonnement, c'est tant par mois et c'est un abonnement par personne.
Mais à l'inverse, le.
Par foyer, quoi.
C'est le Netflix. Comment il s'appelle? Il a un nom, le Netflix, avec la pub.
Publicitaire.
Non, c'est...
le pub.
Ça marche pas du tout.
Ah,
un vrai bide, énorme bide.
Bah, en même temps, c'est vraiment le principe. Enfin, on est quand même beaucoup de pays à avoir de la télé gratuite. Donc, si on veut voir de la pub, bah, on regarde la télé, quoi.
Non, mais vraiment, j'ai pas noté le chiffre, mais c'est ridiculus. Non, ridicule. Bon, c'est ridicule.
Ridiculus, c'est un sort dans oui. Harry Potter.
Ridiculus Marticus.
Ridiculus, oui. Ridiculement Mamba. Allez, on va dire que ça se dit. La suite.
Ah, je croyais que c'était Mamba.
La suite. On avait adoré Elite sur Netflix.
Non.
Bien sûr que non. La célèbre série espagnole qui ne finit pas d'exister.
D'exister.
Eh bien, après 6 saisons, 2 saisons d'une mini-série spin-off appelée Elite, histoire courte, Netflix a annoncé la sortie le 3 février prochain.
Ah, mais c'est ça !
De la version indienne.
Oui, je l'ai marqué en bas.
Bah oui.
J'ai dit, c'est bizarre, ça ressemble à Elite.
Bah, ça s'appelle Elite. Une série, bien sûr, que nous n'hésiterons pas à ne pas regarder.
Ça ne s'appelle pas Elite.
Et encore, je suis sûr que Mathilde pourrait se laisser tenter.
Oui, parce que moi, j'ai dit, ça ressemble à Elite.
Vraiment, ça va être Elite, mais avec d'autres
classe.
Gens.
Classe. Ça s'appelle Classe, saison 1 sur Netflix, série ado indienne. Et j'ai dit, quoi. Meurtre dans un lycée, mode Elite.
Bah, c'est Elite.
Ah, bah voilà. Ah, du coup, tout s'explique.
Finalement.
Désolée.
Mais ça a l'air nul, donc on ne regardera pas.
Les grands esprits se rendent pas du tout.
Elle est petite.
Mathilde, est-ce que tu veux enchaîner avec l'actu d'après ?
Le gros c'est chamboulement. Le gros chamboule-tout. Le gros chamboule touché les plateformes françaises. Le contrat d'exclusivité des programmes HBO sur la plateforme OCS s'est, comme prévu, terminé le 31 décembre 2022. Oh, c'est triste. Ce qui a eu pour effet de voir disparaître toutes les séries de plus de 2 ans sur la plateforme. Mais attends, ça veut dire que celles qui ont moins de 2 ans, elles restent ?
Ça veut surtout dire que je pourrais plus regarder tout ce que je regardais sur Canal.
Ce qui englobe Game of Thrones, Tchernobyl, Watchmen ou True Detective. Pour le moment, House of the Dragon et Euphoria sont toujours dans le catalogue. D'accord, donc les trucs de moins de 2 ans, ça passe. Mais Euphoria, ça a plus de 2 ans, c'est juste la dernière saison qui a moins de 2 ans.
Ouais, mais peut-être que les droits sont...
Parfois. Après, j'ai vraiment regardé pas mal de trucs et c'est pas hyper clair. À moins, en fait, de vraiment... prendre une liste du catalogue avant et maintenant, je dis bien, ça y a plus. Ça y a plus. Ah, ça y a, mais que la saison 2. Bah, en vrai, c'est un peu galère.
Surtout que j'ai vu des doublons, moi.
C'est possible qu'il y ait des doublons
qui sont à plusieurs endroits.
Sinon, après un long feuilleton,
haha.
La série événement The Last of Us. J'avais pas envie. The Last of Us,
mais t'as bloqué.
Qui a longtemps été sans diffuseur en France, a finalement atterri sur Prime Video sans surcoût. Contrairement au Pass Warner qui arrivera en mars 2023 et qui permettra de voir tous les programmes HBO, autrefois sur OCS, si vous avez suivi.
Mais attends, il n'y a pas un truc Warner tout court ?
Ainsi que l'accès de 12 chaînes, ouais, mais pas en France.
Ah bon ?
C'est pas dispo en France.
Il n'y a pas HBO Max en France.
Non.
C'est compliqué.
Mais je pense que le non-renouvellement du contrat avec OCS est la première étape de l'arrivée d'HBO Max en France.
Il y aura également 12 chaînes de télé en accès en plus des programmes de HBO. Pour l'instant, le prix de ce pass est inconnu. Alors, du coup, ça sera sur Prime Video. Tu paieras Prime Video plus un surcoût pour avoir droit à ça.
Ouais, un peu exactement comme le principe du pass Ligue 1. Où tu payes, je sais pas combien, là, 12 euros.
Je vais télécharger Emule.
Et quand même, et OCS dans tout ça. Que va-t-il devenir ? La plateforme qui perd ses séries les plus attractives et qui présente un endettement important a conclu un accord de rachat avec Canal+.
Ah,
Canal+, qui arrive comme ça, bonjour.
Qui devient donc actionnaire majoritaire et récupère l'entièreté du catalogue restant. Bah oui, quand même, ils sont malins. Ouais. On ignore encore si la marque OCS sera encore utilisée ou si elle est vouée à disparaître. Merci.
Et on enchaîne avec une autre mauvaise nouvelle pour les plateformes françaises.
Non.
Ça sent... le roussi pour Salto.
Oh non.
Et oui. Et vraiment, je suis triste.
J'ai l'impression qu'on est les seules personnes de tous les gens que je connais à utiliser ça.
Non, je connais quelques personnes un peu attristées. Mais moi, je suis vraiment triste, premier degré. Alors, on va récapituler un petit peu. La plateforme née de l'union du groupe TF1, M6 et France Télévisions, qu'on aimait beaucoup, ne devrait pas survivre aux enfantillages des groupes audiovisuels français. Petit retour en arrière pour comprendre ce fiasco. En mai 2021... Séisme. J'ai vraiment écrit ce truc comme si, on était au West France. TF1 annonce le rachat du groupe M6. En fait, ça parle vraiment beaucoup de télé là, mais c'est important pour tout comprendre. TF1 annonce le rachat du groupe M6. Ne voulant pas être la cinquième roue du carrosse, France Télévisions annonce cesser sa participation à Salto, ce qu'on peut comprendre. Sauf que la grande fusion ne se fait pas, au final, comme on l'a appris en septembre 2022. Mais c'est trop tard, le mal est fait, les frictions entre les chaînes sont trop importantes. Et donc en novembre de l'année dernière, c'est TF1 et M6 qui annoncent se retirer de l'entreprise Salto pour privilégier leurs offres perso, MyTF1 Max et 6 Play Max.
Je savais même pas que ça existait.
Et ouais.
Pourtant, on regarde quand même des séries pour dire à quel point ça doit être vu.
Et donc ça laisse France Télévisions seule dans cette galère, Salto. De potentiels racheteurs se montrent intéressés, mais il n'y a rien qui se conclut. Ne laissons pas le choix à la présidente de France Télévisions d'annoncer la dissolution de l'entreprise et donc la fin de la plateforme. Toutefois, il est encore possible qu'un acquéreur surprise se présente au dernier moment pour sauver Salto. Mais bon, il vaut mieux pas s'accrocher à ce maigre espoir parce que vraiment, ça n'arrivera sans doute pas.
Mais la plateforme est bien, hein. Franchement, l'ergonomie et tout est presque plus intelligente genre que Prime Video. Prime,
ouais. Mais en même temps, elle est pourrie, celle de Prime.
C'est, ouais, pour moi, elle est peut-être pas aussi... En fait, elle est plus construite sur la base de Disney+, où il y a l'algorithme et pas trop présent.
Je préfère celle de Salto que Disney+, parce que je trouve que Disney+, tu trouves rien. Moi, j'aime pas.
Faut savoir ce que tu cherches.
Alors que Salto arrive quand même à mettre en avant ses nouveautés et tout.
Après, pour la défense de Disney+, c'est que Salto, il y a moins de choses. Donc c'est un peu plus facile de trier. En tout cas, moi, je suis vraiment très attristé, comme je disais, de voir que cette plateforme disparaisse si vite, parce qu'elle est vraiment bien. Elle se battait avec ses armes, c'est-à-dire un budget ridiculement... Putain, mais ce mot ne passe pas ce soir.
Ridiculement.
Ridiculement petit face aux milliards de Netflix, de Disney+, et de Prime Video, en proposant des intégrales de séries emblématiques. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Par exemple, on a découvert Buffy grâce à Salto.
On regarde Undo Stress.
On regarde Undo Stress. On a découvert... Enfin, on a regardé tout. The Aussie. Je retiens pas le nom. Newport Beach.
Non, Newport Beach.
Newport Beach.
C'est quoi le rapport avec The Aussie ?
Mais c'est ça, en
c'est
gros.
C'est le nom VO The Aussie.
Il y a des gens qui se moquent parce qu'ils disent oui, c'est la plateforme des nostalgiques, vous regardez que des vieux trucs. Nanana. Mais ouais, c'est très bien les vieux trucs.
Ouais. Bah, il y a aussi des exclus intéressantes qui étaient des. Par exemple, toutes les bonnes séries. Ouais, c'est ça.
J'ai cru que si je voulais valider un truc.
Non, non. La série sur Sissi l'impératrice. Il y en a une que Netflix a fait, mais là, il y en a une autre version qui est
mieux.
Que je suis en train de regarder la saison 2 là actuellement et elle est
regarde-la vite.
Elle est mieux. Mais non, mais exagère pas, ça va pas partir du jour au lendemain. On a payé.
Alors pour le coup, il y a des gens qui ont payé pour voir des films sur Canal en mode je l'ai acheté, c'est de la VOD. Ça dégage de leur catalogue parce qu'ils perdent les droits et tu peux plus regarder.
Même Netflix a viré des séries.
Oui, mais là tu peux pas acheter que là les gens.
Ah oui, acheter.
Là, c'est
vraiment
des films où ils ont payé pour le voir à vie, quoi.
Aucun intérêt.
Donc malheureusement, Salto n'a jamais réussi à se défaire de son image injuste de plateforme pour regarder Joséphine Ange Gardien. Auprès d'imbéciles qui sont les premières à se plaindre de l'hégémonie de la culture audiovisuelle américaine.
Ah ouais, imbéciles.
Surtout qu'il y avait
carrément plein
de films trop cool sur Salto.
C'est les gens qui disent non mais j'en ai trop marre. En France, on n'est pas capable de faire un Netflix. Bah on en fait un et on chie dessus. Bah, c'est pour regarder Joséphine Ange Gardien. Et pour terminer, je ne souhaite aucun succès à MyTF1 Max et à 6 Play Max qui pour le coup sont 100% des plateformes de replay à 3€ par mois. Parce que on preuve à l'appui, on a testé pendant une semaine MyTF1 Max
gratuit quand c'était avec la Starac.
Et c'est vraiment de la merde parce que
plus ça buguait tout le temps, le truc était en PLS tout le temps.
Et pour ça c'était le live de la Starac, mais en l'occurrence vraiment t'as que du replay sur MyTF1 Max. C'est juste que MyTF1 normal tout est passé à 7 en replay à 7 jours. MyTF1 Max c'est 14 jours, super.
Waouh.
Ouais. Et t'as l'intégrale de Joséphine Ange Gardien, pour le coup. Et l'intégrale de Camping Paradis. Voilà. Je suis vraiment colère sur cette histoire.
Mais oui, tu as l'air.
Non, vraiment, je suis assez peiné.
Bah oui, je comprends.
Il est fureur.
Non, Furax.
Fureur sur un poil, un point Godwin, mais bon... On va enchaîner avant de déraper encore plus avec les Hypito. Mathilde, je vois que tu râles, toi aussi.
Comme d'hab, qu'on en parle quand même de cette histoire invraisemblable. Tout le monde rigole pour rien.
Bon,
je parle de la série 1899, qui est sortie il y a quoi ? 17 novembre 2022.
Elle est annulée, c'est ça ?
Elle est annulée. Pour ça que tu râles. Attendez, je n'ai même pas le temps.
On va faire un jingle, Mathilde, qui est énervée par des annulations de séries. C'est que des remixes.
J'ai même pas eu le temps de la regarder. Ça veut dire que...
Mais elle a disparu déjà ?
Elle est annulée. Annulée, oui, mais... il y a marqué statut annulé.
Mais tu peux pas la voir.
Mais si, mais ça sert à rien de regarder une série annulée. Il y aura jamais la fin. En plus, c'est une série comme Dark.
Tu peux l'inventer. Oh, tu peux faire des fanfictions.
C'est une série...
Oh, super. Je pense que Netflix y est... serait ravi.
C'est une série en mode Dark et le truc est déjà annulé. Alors, le pire, c'est l'explication du pourquoi c'est annulé. J'ai lu quelque part que Netflix disait que ces séries avaient été créées à la base, mais que... Bah, elles avaient été créées avec des budgets beaucoup trop grands pour le visionnage qu'elles rapportaient. Alors, c'est bien, mais ma question est, pourquoi les avoir créées du coup ? Bah, ça n'a aucun sens.
Bah si, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait plus de visionnage.
Mais non !
Bah si, c'est ce qu'ils disent.
Non, ils ont dit qu'ils ont mis trop de budget. Et qu'en gros, c'était des projets, des petits projets à trop de budget. C'est trop bizarre. Vraiment, ça m'énerve. Je suis énervée.
Il y a surtout une... une campagne de com énorme.
Les jeux, ouais, sur celle-là, sur le coup,
Netflix s'est dit, bah, c'est les créateurs de Dark, on va tout miser. Et bah, ça n'a pas marché. Et c'est surtout qu'il y en avait partout. Il y avait dans les, sur les bus, dans la rue, sur Internet.
C'est vrai,
partout,
ça.
Partout.
Je cherche à trouver le...
C'est le monsieur avec le, son chapeau.
C'était sur le média Popcorn. Je ne sais pas si vous connaissez.
Popcorn sur Twitch ?
Bah, sûrement, oui.
Bah oui, je pense que c'est le seul qui s'appelle comme ça, je crois.
Mais moi, j'avais, en gros, je slidais sur Facebook, ça m'arrive des fois.
Je slidais sur Facebook.
Vraiment.
Mathilde a 45 ans.
Vraiment, je comprends plus comment marche ce truc, et moi, je continue à des fois à me perdre dedans. C'est vraiment ce qui se passe en plus, hein. C'est incompréhension totale. Et du coup, Popcorn disait, le PDG de Netflix a déclaré qu'il n'avait jamais annulé une série qui avait du succès.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer.
C'était ça qu'il disait. Et du coup, j'étais en mode, what ? Et du coup, il y avait les photos de 1899. Et il y avait également la photo de Sense8, de Space Force, qui a également été annulée.
Est-ce qu'il y avait, et des Winx. Il n'y avait pas de Society.
Non.
Ah, je suis déçu.
Et des Winx. Et du coup, la citation disait « Beaucoup de ces séries étaient bien intentionnées, mais s'adressaient à un très petit public pour un très gros budget. »
Mais attends, Sense8, le budget ne devait pas être si énorme.
Si, c'était gigantesque
parce que ça se tournait dans plusieurs pays.
Parce que les Wachowski sont allés tourner dans chaque pays. Elles n'ont pas été en studio. Elles ont vraiment été filmées dans... Enfin, c'est pour ça que ça coûtait une fortune.
Là, c'est un choix.
Non, mais est-ce que c'est pas un gros mensonge de dire... En gros,
je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a regardé.
Il a déclaré qu'il n'avait jamais annulé une série qui avait du succès. Ouais. Enfin, arrêtez, ça, c'est un mensonge déjà. C'est un menteur.
Mais en fait, ça dépend ce qu'il appelle un succès aussi.
Précisant
rien. Quoi.
Mais en fait, après, quand il dit beaucoup de ces séries étaient bien intentionnées, mais s'adressaient à un très petit public pour un très gros budget, il le savait en créant la série que ça allait peut-être s'adresser à un petit budget et qu'il mettait beaucoup trop d'argent dedans. Donc pourquoi le faire ? Genre, les Winx, c'est un fandom de ouf. Ils savaient qu'en créant cette série, ça allait faire parler, qu'ils allaient décevoir du monde. Ils ont fait 2 saisons et bim, ils annulent en plein milieu. Enfin, ça n'a pas de sens. Et là, pour cette série, c'est pareil. Ils ont mis des gens sur le coup. Ils ont quand même mis Dark, c'était une grosse série sur Netflix. Et annulée direct. Enfin, on est en janvier, quoi. Ils lui ont laissé même pas 2 mois à la série. C'est vraiment nul.
Au moins, ils sont constants dans le fait de...
Alors, ils sont constants dans le fait qu'ils annulent toutes les bonnes séries.
Oui.
Bah alors, on arrête, en fait. On arrête Netflix. Enfin, désolé, mais au bout d'un moment...
Bah, il y en a d'autres, hein, en soi.
Moi, en ce moment, je suis saoulée, quoi. Je suis saoulée.
En fait, d'un côté, le patron, il est bien beau d'annoncer ça, puisque comme Netflix donne aucun chiffre, ou ça un petit peu maintenant, mais... T'as aucun chiffre d'audience. Donc en fait, il peut dire ce qu'il veut. On annule pas les trucs à succès, mais il n'y a aucun moyen de le prouver.
C'est oui,
hypocrite,
c'est
en fait,
après,
de sa part de,
il va dire
de, d'avoir
pas...
ce discours.
Si son succès, c'est Elite, forcément, on n'y est pas, tu vois.
Mais je pense qu'en fait, 1899, c'est plus dans la ligne éditoriale de Netflix. Netflix va faire des trucs qui cartonnent, va faire du Elite, va faire du Qui a tué Sarah. Ça coûte que dalle à faire et ça cartonne. Et tu peux, le multiplier à foison. Mm. Donc tu vas faire un Elite en Inde, tu vas faire un Casa de Papel coréen. Donc tu limites totalement tes risques d'échecs d'audience, et tu limites aussi tes investissements parce que bah tu fais un copier-coller de ce qui marche déjà.
C'est très triste.
Bah oui, c'est à nous d'avoir plus d'exigences et d'obliger Netflix à proposer des programmes de qualité en disant bon, on va pas regarder vos merdes et on va regarder les super séries.
Mais c'est ça qui est saoulant, c'est qu'à la base Netflix c'était l'opportunité de pouvoir découvrir des séries que tu pouvais, genre Dark par exemple, on n'aurait jamais découvert cette série si Netflix n'avait pas existé. C'était une série allemande. Enfin, il y a plein de séries comme ça que, genre, je vous en parlerai après, mais Sexify, c'est une série polonaise. Jamais j'aurais découvert cette série et elle est incroyable. Et en fait, c'était ça l'opportunité de Netflix, découvrir des pépites de ouf de pays, d'autres pays, en fait, d'aller plus loin que juste nos petits trucs ou alors les grosses séries américaines, quoi, les trucs qui nous qu'on voit tout le temps. Et bah là, c'est en train de vraiment faire n'importe quoi. J'aime pas ça du tout. Mais... Il joue sur ce qui marche, et ce qui marche, bah, c'est les séries espagnoles un peu bizarres, là, qui a tué Sarah et tout. Et sinon, l'autre truc qui marche de ouf, c'est les séries coréennes. Les séries coréennes, ça cartonne. Ils ont je sais pas combien de dramas sur Netflix.
Mais parce que le drama, ça coûte pas cher à faire.
Ouais, c'est vrai.
Et ça m'étonnerait pas que d'ici peu de temps, il se passe la même chose avec les séries que ce qui se passe avec les films. C'est que Hollywood a un milliard de défauts, de problèmes, mais il y a un modèle économique qui est à peu près viable. Et Netflix est arrivé avec plein de prétentions, disant « Nous, on va pas faire Hollywood, on va faire mieux. Donc, on va faire des films de 4 heures, on va faire full budget, on va faire des The Irishman et tout. » Et depuis, il y a eu méga rétropédalage en disant « Ça, c'est fini, les projets avec des budgets débiles, parce qu'on gagne pas. On gagne pas d'argent, enfin, on n'est pas dans nos frais, machin. » Et ça m'étonnerait pas qu'avec les séries, c'était pareil. Au départ, c'était très ambitieux à faire des super séries comme Sense8, comme on a dit, comme 1899. Des séries de niche, de très bonne qualité, mais ça m'étonnerait pas que Netflix s'arrête en disant non, ça, on peut pas continuer à développer ça avec ce modèle économique. Donc du coup, on va faire des trucs de merde qui sont faciles à produire et qui marchent.
Sniff, sniff.
Voilà. On va enchaîner avec Damien.
Ah oui, moi j'ai un épito qui est très court, je suis en train de regarder Beau Fury, je ne suis pas venu ici pour souffrir, c'est très bien.
Ça existe en manga également.
Ça existe en manga.
Ah, j'en ai 3 tomes pour le moment.
C'est vraiment le nom de l'animé, je ne suis pas venu ici pour souffrir.
Oui. Voilà,
tu veux que je te dise en japonais si c'est exactement le même titre?
Ça ne m'étonnerait pas que ça soit un sous-titre.
Et dis-le nous en japonais littéralement. Ah bah ça nous...
Et voilà, c'est la version française.
Qu'est-ce qu'on est censé en
conclure? C'est pas du tout. Mais non, c'est le titre en japonais, c'est ce que tu m'as demandé.
Bah pas du tout.
Ah bon?
Moi non mais jamais.
Mais si tu m'as dit est-ce que c'est le bon titre en japonais? Alors attends, j'ai essayé de l'écrire.
Oui mais dans... je me suis peut-être mal exprimé dans le sens...
Ça veut dire je ne veux pas me blesser alors je me suis concentré sur la défense. Normalement
oui, c'est vrai
ça,
qu'en plus
titre.
J'ai pas tout dit, c'est je ne suis pas venu ici pour souffrir et du coup il y a un truc en plus après.
C'est peut-être mieux de l'avoir traduit de manière infidèle.
Oui, oui, parce que là, c'est beau fourri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, mais en vrai, le vrai titre japonais, c'est « Je ne veux pas me blesser, alors je me suis concentré sur la défense ».
J'ai la vraie trate de Crunchyroll, « Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense ».
Voilà, c'est ça. Et en japonais, ça donne...
Il a l'air malade en plus.
Excuse-moi, c'est parce que j'ai cliqué une fois. Voilà, je ne veux pas me blesser, alors j'ai tout mis en défense.
J'ai vraiment mis un petit hypito très court en disant ça va pas traîner.
Ça parle de foot?
Pas du tout.
Mais parce que vraiment, on est sur un champ lexical du foot. Hein.
Ça parle de VRMMORPG.
Ça dit...
Ah, ok.
Qui a dit qu'on devait être un grand gamer pour être ultra fort?
Mais
la jeune Kaede.
Ça va, c'est... je vais en parler
on
le mois
est le parfait
oui,
exemple.
Que là, on est en train de faire.
Voilà, c'est tout ce que ça dit.
La... Ok. Je vais terminer mon épito avec une vraie réjouissance cette fois. J'ai assez râlé. Je vais vous parler, On va s'éloigner un peu de la SVOD. Mais comme la série est disponible sur Salto, bah, ça marche quand même. Je parle de Balthazar, que j'ai jamais regardé au demeurant.
Ah bah bravo.
La série policière à succès sur TF1 avec Thomas Sisley dans le rôle titre, qui accueille au casting de sa saison 5 Hugo Bardin, que l'on connaît sous le nom de Paloma et que l'on a découvert l'année dernière dans Drag Race France sur France TV. C'est la grande gagnante de cette première saison. Elle y incarnera la nounou de l'enfant de Balthazar et sera aussi drag queen dans la série. Et ce que j'aime dans cette annonce, c'est que d'une part, ce n'est pas le sujet du personnage d'être drag queen. En gros, il n'y aura pas plein de drama autour du fait que son personnage est drag queen. Mmh. Est-ce qu'il arrivera à se faire accepter dans la société, machin, on s'en fout. Et d'autre part, je suis content que TF1, le temple télévisuel du conformisme, ose mettre à l'honneur une drag queen en prime time. Ça fait du bien de voir que les choses évoluent quand même. Voilà.
C'est vrai que c'est surprenant de la part de TF1.
Ouais. Donc, je suis content.
Je comprends.
Me too. Mais il disait que c'était surtout parce que l'acteur principal avait été chercher Hugo.
Oui, c'est Thomas Sisley qui a dit « J'aimerais bien que Hugo... »
Avant Drag Race France.
Fait un...
Vraiment,
non, c'était pas... Alors, il était...
Il connaissait Hugo avant
Drag
Race France.
Oui, parce que apparemment dans une saison précédente, le personnage de Balthazar a enquêté auprès du milieu drag. Donc, et à un moment, s'est transformé en drag queen. Et là, c'est Paloma Hugo qui l'a maquillé et qui l'a transformé. Et après Drag Race, c'est là que son rôle a été écrit.
C'est ça.
Que Thomas Sisley a dit au scénariste, écrivez un rôle pour Paloma. Et voilà.
Et voilà, c'était fait. Plouf, plouf, c'était fini.
Ok. On va parler maintenant des séries. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a des biens.
Bravo.
La chanson de Didier, super.
Je vais commencer par En Place, la série, la nouvelle série sortie sur Netflix le 20 janvier 2023. C'est 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde très vite. Le résumé. Un animateur idéaliste de la banlieue parisienne arrive au second tour des présidentielles. Mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir ?
Il y a que toi qui l'as vu ?
Ouais, moi j'ai pas regardé. Ouais.
Oui, je l'ai regardé en une matinée.
Ah oui.
Je regarde méga vite. Alors, le sujet a un potentiel hyper intéressant. C'est ce qui m'avait emballé dans la bande-annonce. Malheureusement, le scénario s'embourbe pas mal dans son écriture. Le premier épisode est vraiment très bien. Il y a des bonnes propositions de réflexion sur notre paysage politique. Mais ça s'essouffle vraiment tout du long. Chaque épisode est moins bien que le précédent. Et au final, le résultat est assez caricatural. Enfin, totalement caricatural même. Les personnages sont tous des stéréotypes, même si tout le monde est très bien dans leur rôle. Mention très bien à Benoît Poulvorde. Et mention Kata à Eric Judor, dont le personnage est nul. Et surtout, il est gênant tout le long de la série.
Mais c'est peut-être fait exprès.
C'est fait exprès, mais c'est vraiment gênant.
D'accord.
Il y a de la gêne dans la gêne. En fait, ouais. Son personnage est gênant, mais je suis gêné, mais pas comme il faut. Mmh. Voilà, l'explication est improbable.
Genre trop.
Mais en gros, par exemple, Eric Judor... Pour convaincre le personnage de Pascal Zadi de se présenter, il dit « Mais ce serait trop bien un président noir. Et puis moi, je suis un peu noir aussi. Mes parents sont antillais. » Et il prend un accent antillais. Donc, les accents pas ouf. Et surtout que son personnage n'est pas du tout... il est blanc, quoi. Et donc, du coup, c'est voulu que ça provoque de la gêne de... ouais. qu'ils prennent l'accent antillais. Mais moi, j'étais gêné de voir un blanc... Enfin bref, voilà. Vous voyez où je veux en venir. Et en plus, on comprend rien à ses motivations. J'ai rien compris à son personnage. J'ai absolument rien compris. En revanche, il y a Pascal Zadi qui réussit à faire passer sa sympathie à travers l'écran. Ça, c'était pas compliqué parce que vraiment, il a l'air hyper sympa. Et son personnage est intéressant, mais comme à l'image de la série, en fait, il s'essouffle de plus en plus. Et dans la, en fait, dans la bande-annonce, on le voit surtout de, enfin, c'est surtout des extraits de la saison 1, de l'épisode 1. Mm-hmm. Et c'est là que c'est qu'il est le meilleur.
Oui, ils ont gardé que des trucs de l'épisode.
Oui, presque. Et malheureusement, il y a un humour un peu débilo-vulgaire qui gâche tout pour moi. Et ça ruine aussi la portée politique de la série parce que vraiment, ça pose un vrai truc quoi, au second tour. C'est vraiment dans les 30 premières secondes de l'épisode 1, ça dit ça, donc je vous spoil pas. C'est un homme noir et une femme blanche en l'occurrence, mais surtout une femme, mm-hmm. qui sont au second tour. Donc en fait, il y aura de la nouveauté à la présidence, quoi qu'il arrive. Et donc oui. Rien que ça, ça peut amener à des débats, à des discussions hyper intéressantes. Bah non, ça préfère partir dans du caca zizi. Je trouve ça vraiment bête et dommage. Voilà.
Une déception du coup.
Un petit peu. J'ai passé un bon moment, mais voilà, un peu déçu. Mathilde, est-ce que tu veux bien nous parler de la suite ?
Oh bah je sais pas. Écoute, oui, je veux. On va parler de Sexify. C'est ça, hein ?
Oui. Oui.
Alors, je vous avais peut-être parlé déjà de Sexify qui était sorti un jour. Oui. Mais là, c'est la nouvelle saison qui est sortie en janvier, la saison 2, qui comptait 8 épisodes de 40 minutes. Et c'est dispo sur Netflix. Pour rappel, pour créer une application sexuelle innovante et remporter un concours, une étudiante expérimentée et ses amis doivent explorer le monde intimidant du plaisir féminin.
Elle est expérimentée en quoi ?
Bah, elle est forte.
Bah, elle est inexpérimentée en sexe.
Inexpérimentée ?
Oui, elle n'a pas eu de...
Ah, parce que c'est écrit expérimenté.
C'est pour ça que je me demandais.
Non, inexpérimentée.
D'accord.
Alors, c'est une super série polonaise, la série dont je vous parlais tout à l'heure, là, en disant qu'elle était trop cool et tout, que c'est une super découverte. En gros, le résumé, c'était la saison 1. Là, on retrouve nos héroïnes dans leurs locaux parce qu'elles ont réussi à monter leur start-up. Elles bossent sur leur appli qui est trop cool, mais tout va partir en vrille. Parce qu'en fait, leur application, elle va pas pouvoir toucher assez de public pour être rentable. Il n'y a pas assez de femmes qui l'utilisent. Donc là, vient une idée incroyable. Il faut créer le Sexify des mecs, qu'on appelle évidemment le Sexy Guy. Et clairement, c'est pas gagné. Car ces messieurs refusent de parler ouvertement de sexe, ou alors ils mentent sur leurs nombreuses partenaires et leurs performances, bien évidemment. C'est toujours mieux de mentir et de chahuter avec ses copains. C'est un peu ce que raconte la série.
Ou leurs pas nombreuses, du coup. Leurs pas nombreuses
partenaires. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Cette série est toujours aussi cool. La seconde partie parle des mecs et de leur rapport au sexe. Et c'est plutôt intéressant. On se rend compte que c'est un sujet tabou pour tout le monde, mais encore plus pour vous. Je vous montre du doigt. Petit.
On se fait dénoncer, on n'a rien dit.
Personne si genre masculins qui sont juste à côté de moi. En gros, regardez cette série, elle est féministe, elle casse les tabous, elle parle de la place des femmes dans les entreprises et plutôt d'une façon vraiment réaliste. Et c'est une tuerie et il ne faut pas que Netflix l'annule, hein, s'il vous plaît. Merci.
Ouais.
Netflix nous écoute. Hein.
Toujours, toujours.
C'est là-dessus qu'ils se basent pour annuler les séries. Du coup,
c'est pour ça, chaque
bon
fois
signe.
Je dis « Oh non, mais... annuler là-bas, bon, c'est celle-là qu'il faut annuler. Oui. »
Il faut annuler Elite. Annuler Elite.
Mais non, il faut l'inverse, on a dit.
Aimez Elite.
Ah, bah, faites 1000 saisons d'Elite. Hein. Et qui a tué ça ? On aimerait bien savoir qui. Donc continuez. On va enchaîner avec une série sur Disney+, cette fois. Il s'agit de Willow, la saison 1, qui compte 8 épisodes de 50 minutes. Ça avait commencé à sortir le 30 novembre 2022. Le résumé, l'action se déroule plusieurs années après les événements relatés dans le film. Au royaume enchanté des fées et du dragon à deux têtes, Ebor Sisk.
Qu'est-ce que t'es parti chercher là?
Je sais pas.
Que des noms bizarres en
c'est
plus.
Passé.
De nouveaux personnages feront leur apparition, mais on retrouvera également Willow of Good, le nain amateur de magie. Vraiment, c'est horrible.
Genre, il aime bien.
Mais il est magicien. Genre, mais c'est parce que je prends les résumés.
Mathilde est amatrice de manga.
Bah, les...
Toujours.
C'est n'importe quoi. Et bah pourquoi pas, Willow.
Ah oui.
J'ai aucun souvenir du film, si ce n'est les trucs un peu iconiques, parce que je me rappelle de Willow, bien sûr, puis le méchant au masque en crâne. Et le fait que ça a été créé par George Lucas qui voulait faire son Seigneur des Anneaux. Voilà, je me rappelle que de ça. Et ce qui est amusant, c'est que ça sert à rien. Non.
Super, c'est ça c'est fait.
Non, on,
c'est, du ça, coup, t'as
c'est,
détesté.
C'est que ça sert à rien de ne pas se rappeler du film. Non, de se rappeler du film.
Oui, c'est ça.
C'est pas grave
c'est
de
pas
se rappeler. Oh là là, mais vraiment, personne galère autant. Ça sert à rien. Non, ça c'est va. Pas grave de se rappeler. Oh la vache.
T'as pas besoin d'avoir vu le film pour comprendre la série.
Merci.
C'est ça, la finalité des mots.
Et ce qui est amusant aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, si ce n'est que c'est de la fantasy. Voilà. Parce que c'est un univers qui est vraiment très terrien à plein d'aspects. Rien qu'aux vêtements, les gens ont des vêtements, des chemises.
Non mais putain, t'as regardé le Seigneur des Anneaux ? Ils ont pas de chemise.
Non, il y a pas de chemise dans le Seigneur des Anneaux.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Il y a pas de chemise à col.
Ah non.
Il y a pas de col.
Ils ont pas de caleçon non plus, je suppose. Alors.
Bah ça, je sais
mais
pas.
Où tu vas ?
Non mais en plus, il y a la série, elle est ultra
pas
pop. Dans chaque épisode, il y a une musique
pop.
Rock.
À la fin. C'est à la fin.
Non, pendant, il y a des fois, il y a des training. Il y a un training montage dans l'épisode 7. C'est vraiment de la pop anglaise, mais la scène est trop
bonne. Moi, je peux te couper, mais moi, ce qui me fait trop marrer dans la série, c'est les dialogues. C'est les dialogues, les personnages, ils parlent pas comme si c'était dans un roman ou un truc comme ça.
Mais
ils
voilà.
parlent vraiment comme si c'était son pote.
Voilà.
Genre, on va se cacher là. Ouais, il y a un troll qui arrive. Ah, ok.
Bon, dans le Seigneur des Anneaux aussi.
Non, dans le Seigneur des Anneaux, ça parle.
C'est de la poésie.
Voici Dar, vous l'avez déjà vu autrefois. Là, dans Willow, c'est. Eh, t'as vu mon épée?
Hey, tu l'as déjà vu, tu te souviens?
Elona, fais pas tomber la baguette, bon sang!
C'est voilà, c'est comme ça.
C'est un vrai extrait?
Oui, je pense.
Ouais,
oui,
elle a déjà fait tomber une baguette, oui, il fallait pas.
Donc tout ça, au départ, ça déstabilise un peu, mais au final, je m'y suis fait. Et j'ai apprécié la proposition. Les personnages sont clairement moins nobles que dans Le Seigneur des Anneaux, ça aussi, voilà, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et puis, bah, en fait, je vais arrêter l'œuvre, la comparaison avec l'œuvre de Tolkien.
Ça n'a pas de sens, ouais.
Parce que Willow est carrément une meilleure série que Les Anneaux de Pouvoir.
Oui, et puis surtout que du coup, tu compares avec les adaptations.
Oui.
Mais...
Moi, j'ai aimé cette équipe de personnages, un peu stéréotypée, mais qui évolue au fil des épisodes et pour qui on s'attache vraiment. Chacun et chacune a des motivations et un background, preuve d'une écriture plutôt soignée. Le scénario, justement, il est très basique. Il repose sur un MacGuffin, c'est sauver le prince du royaume. Mais il y a des séquences...
Pour moi, c'est pas la princesse. Hein.
C'est vrai. Mm. La princesse, elle casse des bouches.
Elle est morte.
Avec son épée. Non, non, elle est avec l'équipe qui part à l'aventure. Il y a des séquences variées dans plein de décors qui sont pour la plupart réelles et qui sont plutôt très chouettes.
C'est pour ça que c'était rien.
Oui, oui, en plus, voilà, parce que c'est
des vrais...
Il y a une scène quand c'est sur la mer, l'océan, la mer, je sais plus. Enfin, l'épisode 7 se passe principalement sur une mer. Mais alors, c'est très rigolo parce que c'est la mer, mais en fait, il y a genre un centimètre d'eau.
Et du coup, pour se déplacer, ils utilisent un espèce de monstre amusant.
C'est un monstre qui mange la vase, mais c'est un monstre énorme. C'est genre une baleine qui mange la vase. Mais
je trouve ça plutôt bien fait. Et les couleurs et tout, ça rend vachement bien.
Oui, d'accord. Et donc, j'en arrivais à raconter cette séquence-là parce que c'est une des rares séquences longues qui est en studio. Ça se voit que c'est en studio et je pense vraiment que c'est dans le. J'ai oublié le nom, mais le truc du Mandalorian, là, avec les écrans 360.
Ça
ressemble beaucoup à ça.
De toute façon, les trucs sur l'eau, je crois qu'ils font plus trop en vrai, parce que c'est trop galère. En fait.
Mais là, c'était impossible de trouver un décor comme ça, parce que c'est vraiment quand... avant d'arriver à l'eau, t'es sur une espèce de sable mouillé où t'as un centimètre d'eau tout le temps, là.
Ouais. Et en gros, c'est ça, ma perte de vue.
L'océan.
Ah, oui.
Et il n'y a rien autour, donc il y a le vide, en fait.
Puis il faut trouver le monstre, il mange la vase aussi.
Ah bah il est incroyable, il est bien vachement bien fait ce monstre.
Et pour le coup, il donne l'impression d'être bien fait parce que je pense qu'il est en animatronique.
Oui, c'est un animatronique. Et vraiment, se prendre la tête pour faire ce truc en animatronique, les gens, ils ont du courage. Hein. Ils étaient pas obligés.
Ils sont payés après pour faire ça, les gens.
C'est du courage.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de séries où ils sont dit « Oh, bah, tu le fais en
truc, tu le fais en 3D, ça rendra pas bien parce qu'on n'a pas envie de mettre un gros budget. Enfin, » Non, pour le coup, c'est vrai que c'est très honorable. Et la série, j'allais dire, a été tournée au Pays de Galles et ça se voit pas mal. Par contre, mon bémol, c'est à quoi sert Willow dans cette série ? Parce que si on l'enlève du récit, l'histoire, elle est exactement la même.
Mais c'est juste qu'il faut, il faut quelqu'un qui les guide.
Oui. Parce que c'est une tranche de vie.
Non,
et
mais...
on suit la tranche de
une
vie.
Une tranche de pain, non.
Mais du quotidien.
Ton humour est irrésistible.
Oui, en plus, c'est des private, du coup, c'est encore pire.
C'est dans Undo Stress.
Ah, mais c'est ça, j'étais en train de me dire, mais d'où est-ce qu'il l'a sorti? Mais c'est Juan.
C'est
Juan.
C'est Juan de Undo Stress.
Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a... Ils avaient dit un truc horrible.
Oh, non, mais
c'est parce que. Alors, vraiment, en retrouvant l'extrait, je peux faire.
C'est pas quand Diana a dit une connerie.
La directrice Carmen Arantz dit, je sais plus trop quoi, on fait, faut pas trop faire de trucs avec les élèves. Et il y a Diana, l'ex de Juan, qui dit, ben, y en a qui s'en privent pas. Entre guillemets, il y en a qui s'en privent pas de coucher avec les élèves. Et là, Juan dit,
ton humour est irrésistible.
Voilà. Vraiment méga private.
Voilà, voilà. Ravi.
Voilà, donc Willow, à quoi il sert?
Eh ben, il sert à... Il faut un guide tout le temps.
Oui, mais c'est Gandalf.
C'est pas
c'est
le
un
point
guide.
De vue.
Alors, j'avais dit que j'arrêtais avec...
Arrête avec Gandalf, oui.
Obi-Wan Kenobi dans Star Wars 4, c'est un guide.
Mais c'est peut-être juste le point de vue.
Non, parce que vraiment, on l'enlève du scénario, il se passe la même
mais
chose.
Mais si, parce
oui,
qu'ils
mais...
savent pas où aller. Ah. Les guides. Et en plus, il les protège un peu parce que c'est un
mais
magicien.
C'est pas lui le guide, c'est,
mais regarde,
c'est un amateur de magie.
C'est le grand barbu.
Mais non, le grand barbu, c'est pas un guide, lui, c'est un voleur.
Bon, quoi.
Et en plus de, et en plus de ça,
bon,
s'il,
Willow,
était,
GPS,
s'il était pas là au début, et ben, il serait mort parce que personne ne les aurait protégés.
Ah oui, non, mais par contre, des fois, il fait des trucs. Mais bref, je trouve que pour une série qui s'appelle Willow,
c'était parce qu'il fallait
les
mettre
les gens
le
la
nom.
Regardent.
C'est vrai.
Oui, c'est ça.
Bon, vous avez un peu raison. Enfin, j'ai beaucoup aimé la DA de la série, la photographie, parce que c'est pas trop fantaisiste, juste ce qu'il faut de réaliste. C'est, bref, c'est une jolie surprise.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai marqué « je suivrai le mouvement ».
T'as bien suivi, t'as dit « ouais, c'est vrai, je suis d'accord ».
Donc si j'avais pas aimé, t'aurais dit pareil.
Mais non, je t'ai coupé pour dire les trucs que j'aimais bien. Moi, j'aime bien l'ambiance où ça passe souvent d'un truc super sérieux à une grosse connerie. Vraiment, et moi, ça me fait rire. C'est vraiment, ils sont en train de se battre, et d'un seul coup, il y en a un, enfin, ils se cachent tous derrière un muret, et ils ont dit... Et là, ils commencent à avoir une discussion, tu vois, genre, bon, on est derrière le muret, là, on a genre 3 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je me dis, en fait, dans la vraie vie, si on vivait dans ce monde-là, ça ressemblerait vachement plus à ça que, genre, au Seigneur des Anneaux, où ils parlent bizarrement ou des trucs comme ça.
On avait
ça,
dit qu'on arrête.
Mais ils sont très, très vieux.
Non, mais tu vois, genre, moi, je nous vois bien, tous les trois, là, courir, parce qu'on est en train de se faire poursuivre depuis des heures par un monstre, on se met derrière un muret, on fait, putain, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut qu'on trouve une solution, on va pas les laisser, ils vont nous tuer.
Non, c'est possible.
Ils ont envie de me faire courir après par un monstre.
Mais d'ailleurs, quand
et les blagues
des
et tout,
monstres,
et ben voilà.
Les monstres font flipper.
Ah ouais, ils font grave flipper.
On est
hein.
bien dans la ligne.
Il y a quand même un mec qui a une cage
film.
Tout le temps sur sa tête. Une cage à oiseaux. Pourquoi?
Oui, mais c'est pas... Là, vraiment,
non,
on se croirait dans...
Il y a une cage à oiseaux sur sa tête.
Là, quand tu dis ça, on se croirait vraiment dans un Looney Tunes. C'est plus une cage à oiseaux en mode Jigsaw, quoi.
Une cage à oiseaux. Un petit oiseau mignon.
Je pense qu'il a mangé l'oiseau qui est dans la cage, le mec tellement est chelou. Non, mais c'est bien. Et puis, il y a des sorcières. Et puis, j'aime bien le personnage du prince qui est complètement stupide. Il me fait rire aussi. Et j'aime bien le fait qu'on sauve un prince et pas une princesse.
C'est vrai.
Et que la princesse, elle soit elle qui soit badass. Et que le prince, il est complètement un peu... Voilà, je trouve ça amusant. Ça me fait rire.
Non, c'était vachement bien.
Et il y a de la représentativité dans cette série. C'est bien.
Oui, la princesse et LGBT.
Ah oui, il y a aussi des personnes racisées, c'est ça, c'est ce que je disais.
Oui, c'est vrai.
C'est bon ?
C'est tout bon, on peut enchaîner.
Moi, je vais parler... Je vais regarder que des saisons 2, apparemment. Je vais parler de Ginny et Georgie.
Mais t'avais pas déjà parlé de la saison 1 ?
Mais si, mais laisse-moi, c'est la saison 2, c'est une nouvelle saison. C'est sorti en janvier. 10 épisodes d'environ 50 minutes sur Netflix. Pour rappel, Ginny et sa mère Georgia s'installent dans une nouvelle ville dans l'espoir de changer de vie. Mais les secrets du passé de Georgia viennent compromettre leur projet. C'était la saison 1 de Ginny et Georgia. C'était sympa, mais sans plus.
Tu vas faire tout le truc en chantant.
La 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 la.
Voilà, c'était sympa, mais sans plus. Pour rappel, cette série se vendait comme le nouveau Gilmore Girl. Spoiler alerte, pas du tout, c'était totalement faux. Ça n'avait strictement rien à voir, à part le fait que c'était une maman qui avait eu sa fille très jeune.
Et le fait qu'il y ait deux G. Ginny et Georgia.
Comme Gilmore Girl.
Oh là là.
Donc, moi, quand j'ai regardé la saison 1, j'avais été vachement déçue. Mais bon, j'avais quand même envie de découvrir cette saison 2, voir qui Ginny choisissait, Marcus ou je ne sais plus comment s'appelait l'autre, Marcus.
Random prétendant.
C'est ça. Et donc, sur mon brouillon, vous ne voyez pas, mais il y a marqué Marcus, Marcus, Marcus en gros.
Marcus qui est barman, comme Luke dans Gilmore Girls.
Il n'est pas du tout barman, c'est Ginny qui est barman, qui travaille dans le café.
Tu l'avais dit.
C'est un ado.
Ah, je pensais que tu,
ah, tu parles de Joe.
Ouais, voilà. J'ai pas suivi.
Mais Joe, il est pas avec la maman.
Dommage.
Il est in love d'elle, mais c'est un... il est friendzoné.
Comme alors, dans Gilmore Girls.
Donc, bah, je lance la série. Et là, surprise, cette saison est plutôt une masterclass. Vraiment.
Oh, les mots sont dits.
Oh, c'est dit. La série s'appuie sur le personnage de Jenny. Pour parler de l'automutilation, des troubles psychologiques et de la santé mentale, on voit l'évolution de son état, ses rencontres avec sa psy, et c'est vraiment super bien fait, je trouve. En plus, le personnage de Marcus, donc son petit ami, quant à lui, est aussi mis en avant, et on aborde avec ses problèmes la dépression. Et pareil, c'est très bien fait, et il y a des messages tels que, il y a un moment dans la série, il dit « Je l'aime, mais être aimé demande aussi de faire des efforts, j'ai pas la force d'être aimé en ce moment ». Et du coup, c'est vachement bien dit, c'est vachement beau. En gros, c'est un garçon, il est amoureux de cette fille et en fait, il se rend compte que lui, psychologiquement, il n'arrive déjà pas à gérer et qu'en gros, s'il devait rester avec elle, bah, il devrait faire des efforts et qu'il n'en est pas capable psychologiquement. Mmh. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir ce recul-là que des fois, t'as beau aimer quelqu'un, mais ça ne suffit pas parce que toi, t'y arrives pas, quoi. Toi-même.
Ouais.
Et c'est le genre de discours que j'avais pas vu dans une série pour ados jusqu'à maintenant. Enfin, ou alors de façon très très noire, quoi, comme dans Euphoria. Mais là, c'est vraiment...
Ou c'est de l'amour autodestructeur.
Il te montre des choses ultra sombres. Que là, c'est juste deux ados qui sont un peu... Bah, qui galèrent, en fait. Il y en a un qui a, qui a des troubles de la dépression. L'autre, elle se mutile parce qu'elle a vécu des choses difficiles dans sa vie. Et ils s'aiment tous les deux. Ils se soutiennent. Mais... bah, ils peuvent pas avoir une relation amoureuse parce que c'est trop compliqué pour les deux. Et je trouve que c'est vraiment bien fait.
Ouais.
Et du coup, moi, ça me fait vachement plaisir de voir des messages pareils dans des séries pour ados. Pour le reste, les intrigues sont pas mal. Georgia est toujours énervante, la mère de Ginny. Moi, je l'aime pas trop. Et manque cruellement de morale, ce qui est vraiment très bizarre. Mais après, c'est aussi psychologique. Enfin, en fait, là, je pense que comme la série... elle se focalise sur la psychologie des personnages, je dirais que c'est pas étonnant que sa mère soit comme ça. Mmh. Enfin, ça peut s'expliquer, elle a pas eu d'enfance, et du coup elle est surprotectrice avec ses enfants, tellement surprotectrice qu'elle sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est, au final, c'est plutôt pas mal. Mais ça nous fait nous poser aussi plein de questions sur qu'est-ce qui est une femme dans notre société, genre ce qui est bien, ce qui est mal. Peut-on choisir de stopper une vie quand la personne souffre ? Des thématiques qui demandent vraiment beaucoup de réflexion, alors qu'à la base, dans la saison 1, c'était un gars qui chantait une chanson d'amour pour une fille dans un couloir. Enfin, vraiment, on n'était pas du tout sur ce truc-là. Là, on est vraiment... On a vrillé, on a fait un virage. Et la série est clairement passée d'une petite série pour ados, pas ouf, à une série qui veut aborder des sujets sociétaux importants. Et moi, je dis, bah, chapeau, les gens. Vraiment. Vous m'avez un peu... vous m'avez mis une claque, je m'y attendais pas. Et bah voilà, moi j'ai hâte de voir la suite.
Ah bah ça va être annulé maintenant. j'avais prédit, je crois, annulation de Ginny et Georgia à la fin de la saison 2.
Ah, saison 2.
Mais bah, du coup, je le souhaite plus trop.
Bah peut-être que les gens, ils... c'est plus aussi feel good, quoi. Enfin, il y a des messages de trigger warning au début des épisodes. À la fin, il y a marqué si vous souffrez de ce genre de trouble, pensez à appeler telle personne, tel numéro. Enfin, vraiment. On n'est plus sur un petit truc tout doux, quoi.
Ça fait penser à Sex Education, qui est passé d'une série amusante sur la sexualité de la saison 1 à vraiment une sorte de guide, de la vie affective et de la vie sexuelle pour les ados.
Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est ça, alors que bah, Sex Education, t'avais quand même une base qui faisait que ça pouvait évoluer dans ce sens-là. Oui, oui. C'était ça, voilà, tu pouvais le prédire. Que là...
Après, c'est peut-être des séries où les créateurs, au début, avaient ce thème un peu plus profond et se disent, il faut quand même qu'on commence par quelque chose pour faire rentrer dans la série. Mmh. Et du coup, il faut un truc plus léger en premier et après, ça bascule.
Ouais, peut-être.
Tant mieux, en tout cas.
Mmh. Tant mieux.
On va terminer avec Damien qui...
Ah bah, c'est moi.
Oui. Il va clôturer les séries de janvier.
Oui, je me sens obligé de préciser que Slo fait des rêves et que du coup, elle arrête pas de faire des petits mouvements bizarres.
Mais c'est souvent très mignon.
Ça l'a réveillé quand j'ai dit son nom. Oui. Alors, moi, j'ai regardé une série. C'est la seule que j'ai regardée, visiblement. En tout cas, c'est la seule que j'ai finie. Et d'ailleurs, c'était pas... Enfin, bref. Ça s'appelle Future Man.
C'était pas OK. Enfin,
Ouais. J'ai regardé la saison 1, qui contient 13 épisodes de 30 minutes. C'est sorti le 14 novembre 2017. Et c'est sur Disney+. Voilà. Je suis tombé sur la vignette et je me suis dit « Oh, quelle est cette série ?» Et j'ai été voir des commentaires sur Internet qui disaient que c'était pas mal. Alors, c'est de trois personnes. C'est de Howard Overman, de Kyle Hunter et de Ariel Shaffir. Et c'est avec Josh Hutcherson.
Mais oui, c'est ce que je constate.
Elisa Coupe et Derek Wilson. Mais je vois que tu constates.
Non, mais vraiment. Non, c'était pas en mode « Oh là là ». Non, je constate vraiment. Mais je me demandais depuis Hunger Games ce qu'il faisait. Bah, je suis content de voir que...
Je savais pas qu'il faisait des trucs dans
le C'est Peeta Mellark, quand même. Bah, je suis content de voir qu'il a fait une série. Hmm. Voilà.
Bah, après, il y a participé. Et c'est le héros. Bah, d'ailleurs, je vais faire le résumé.
Il a fait sa série, quoi.
Non. C'est Howard, Kyle et Ariel qui ont fait la série dans laquelle joue Josh.
Oups.
On dirait le début d'une blague. Alors, du coup, agent d'entretien Josh... Ah, il a le même nom. Ou alors, je me suis trompé. Josh Futureman est féru de jeux vidéo. Alors qu'une nuit, il achève le tout dernier niveau du jeu, et alors qu'il se donne du plaisir devant le personnage du jeu...
Hein ?
Eh oui. Deux visiteurs
moi, c'est vraiment ça, ok.
Oui, deux visiteurs venus du futur, héros du jeu, débarquent soudain dans sa chambre. Ils lui expliquent que la prochaine extinction de l'humanité arrive et qu'ils ont besoin de lui pour sauver la Terre. Un pitch un petit peu rigolo. Et donc j'ai regardé le premier épisode, donc le pilote, en me disant que c'était à chier, parce que vraiment c'est pas ouf. Globalement, on voit un gars un peu nulos qui joue à des jeux vidéo et à la fin il se masturbe et il y a les autres qui débarquent et c'est pas forcément le meilleur lancement. Mais c'est j'avais vu sur internet que les avis disaient qu'il fallait pas s'arrêter au pilote. Et effectivement, du coup, quand j'ai continué, c'est de mieux en mieux. On peut même dire topi top. Josh a une évolution de perso qui est assez classique, c'est un espèce d'anti-héros qui au fur et à mesure de la série va prendre ses responsabilités et puis être de plus en plus responsable, un peu comme Chuck, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure. Mais du coup il y a beaucoup de petits à côté qui sont bien, il y a beaucoup de blagues, ça reste une série comique principalement et les blagues sont très drôles. Mais il y a aussi pas mal de choses sur la condition des femmes dans la société actuelle. Comme il y a du voyage dans le temps, ils en parlent avec un biais assez sympa. Ça parle de racisme, parce qu'ils voyagent aussi dans le passé. Ça parle aussi de capitalisme, parce que les destructions de la planète sont dues à des grosses corporations qui font de la merde, globalement.
Je ne peux pas y croire.
Je suis désolé, mais Jeff Bezos n'est pas le bienfaiteur de l'humanité. Spoiler.
Le capitalisme vert dans tout ça. Tu le mets où ? Pardon.
Ouais. et l'auteur avait visiblement une fascination pour James Cameron. Il y a tout un épisode qui se passe dans la maison du futur de James Cameron. C'est vraiment très drôle. Enfin, c'est un peu que des private jokes. Enfin, c'est assez niche, mais c'est drôle. Et il y a beaucoup, beaucoup de refs au ciné, en général. Donc, quand on les a, ça fait toujours plaisir.
Oui.
Voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je vais regarder les suivantes. Et j'ai regardé le début de la suivante. Et ça a l'air d'avoir twisté complètement. Ils font un peu ce qu'ils veulent, vu qu'à chaque fois qu'ils vont dans le passé, ils modifient le futur.
Ah donc oui.
C'est un peu du déjà-vu, mais...
Balek, les paradoxes.
Voilà, c'est ça. Ah oui, Balek, parce que vraiment, il se croise lui-même et il s'en fout.
Ok.
Il se passe rien. Donc voilà,
ça me donne envie.
N'hésitez pas à regarder.
Mais il y a un truc qui me fascine chez toi, Damien, c'est que tu es capable de continuer à regarder des séries alors que le premier épisode est nul.
Ouais, bah je fais ça aussi.
Moi j'y arrive pas trop, mais là c'est parce que j'ai vu que les commentaires étaient bien. Ouais. Parce que vraiment, dans mon truc de début de Disney+, là j'ai 3 ou 4 trucs où j'ai. Ah,
moi
ça me fait chier.
J'ai commencé à regarder Trésor Perdu. J'ai regardé le premier épisode. C'était vraiment pas bien et j'ai absolument aucune motivation de continuer. Alors que je suis ce genre de personne qui aime bien terminer les trucs j'ai commencé.
Puisqu'on est là-dedans, moi je peux en dire un aussi.
Mais je vais le finir, mais je sais pas quand.
Ah, tu vas le finir. Parce que moi j'ai commencé à regarder The Gifted. Bah, je le finirai pas. C'était nul.
Ah, c'était une série X-Men.
C'est vrai ?
Oui. Ah, bah... T'avais commencé à regarder, toi, The Gifted.
Ça m'a vachement marqué.
Ah, bah oui, on voit ça, dis-nous.
Vraiment, oh, je suis ouf.
C'était une des trois séries X-Men.
Ah ouais ?
Il y avait eu The Gifted, il y avait eu l'autre là qui est un peu foufou. C'est Légion ! La série.
Qui parle de troubles, de problèmes psychologiques.
Ah bon,
également.
Oui. Légion, c'est une série X-Men ?
Oui, c'est le fils du professeur Xavier. Voilà.
Ah. Ouais, c'est une bonne série en vrai, mais elle fait un peu bader quand même.
Ah bah, je mettrais peut-être, parce qu'à chaque fois, je vois les espèces de trois visages chelous et je me dis, oh.
C'est possible que c'est sur Disney+.
Oui, c'est sur Disney+, c'est un fait.
On a terminé les séries. On va pouvoir enchaîner avec des spectacles. J'ai regardé deux spectacles ce mois-ci. J'ai d'abord commencé par Presque de Panayotis Pasco. C'était sorti le 3 novembre 2022 sur Netflix. Ça dure 1h18. Oui, c'est récent. Ce spectacle avait fait grand bruit quand il est arrivé sur Netflix. Alors, ça m'a donné envie de le regarder à peu près 3 mois après. Déjà, Panayotis, il a évidemment une sympathie naturelle, c'est indéniable. Et faut pas avoir de cœur pour prétendre le contraire.
tu nous mets un peu d'eau au mur.
Et heureusement, bah, il est assez drôle aussi. J'étais très touché par son spectacle. Si j'étais sur France Inter, je dirais le jeune humoriste se met à nu et nous décrit avec justesse et sincérité la jeunesse de 2020. Hein ?
Un peu Télérama aussi.
Oui, et je passe la parole à Léa Salamé maintenant. Sauf que c'est assez vrai en fait, parce qu'il se livre beaucoup sur sa relation avec ses parents et ses histoires d'amour. Et le petit coup génial du spectacle réside dans la dernière minute, quand on voit la fin arriver, mais qu'on n'a toujours pas bien compris, en ce qui me concerne, le fil rouge, et ben, sauf dans les quelques dernières paroles où tout prend son sens, et c'était vraiment bien fait et vraiment touchant. Et je dois avouer que ça m'a mis une petite claque. C'était inattendu et magnifiquement sincère.
Ça donne envie.
Ouais. Et puis ensuite, j'ai regardé Haroun, qui est sorti en 2021. C'est un spectacle de 2020 en plus.
C'est le nom de son spectacle ?
Oui, c'est Haroun de Haroun. J'ai vérifié, c'est vraiment comme ça que le spectacle s'appelle. Okay. Ça dure 1h16 et c'est dispo sur Netflix. Eh ben, je ne connaissais pas du tout Haroun et puis j'ai vu passer sur Twitter un extrait d'un de ses passages sur scène. D'un spectacle récent en plus, pour le coup. Et j'étais surpris par son écriture tranchante et cinglante. Le gars ne prend jamais de gants et il va toujours franco. Et c'est les bons mots qui sont bien pour décrire ce spectacle pré-Covid. C'est clairement un humour qui ne plaira pas à tout le monde, parce que moi-même, j'ai quelquefois été un peu... Ah oui, quand même. C'est un peu de l'humour de tonton, mais en vraiment drôle. C'est comme si on prend des blagues de tonton, donc des blagues vraiment border, mais qui sont hyper bien placées, toujours dans le bon coup et tout, donc forcément...
Un peu genre Bill Burr ou des trucs un peu...
Ouais, bah après j'ai pas les refs, mais je pense que c'est à peu près ça, quoi. Donc ça marche bien et c'est drôle. Je dirais qu'on pourrait le ranger dans la même catégorie que Blanche Gardin, finalement. Et bon, j'ai été moins touché par ce spectacle... Non mais parce que c'était pas le but non plus d'être un peu touchant, c'était juste je raconte, enfin même si la fin, j'ai pas compris la fin par contre, c'est dommage, j'ai pas compris la fin. Voilà, j'ai terminé, j'ai été très vite.
Oui.
On va pouvoir enchaîner avec les recommandations et les nouveautés de février. À commencer. Non, Mathilde, on te laisse la parole.
C'est vraiment genre la sécheresse des séries et des films, tu vois. C'est la période de le désert, quoi. C'est pas
ça
ouf.
Ça arrive. Hein. Oui, mais ouf. Du coup, ça va aller particulièrement vite.
Bah oui, mais surtout que là, il y a... Bon, alors, ça continue. On a The Last of Us sur Prime Video.
Ah, vous regardez ?
Bah, moi, j'ai pas regardé, mais.
Bon, on va commencer à regarder,
mais...
ouais.
Mmh, mais on en a parlé, aussi. On en a parlé. Donc, peut-être. On a Star Wars The Bad Batch.
Oui,
oui.
On a My Hero Academia saison 6 sur Crunchyroll.
Oui, Vinland Saga.
On a Vinland Saga sur Netflix.
Et Crunchyroll, ça sort sur les deux.
Sur les deux ?
En même temps.
On a Tokyo Revenger, toujours un épisode par semaine sur Disney+.
Oui.
Et je réfléchis. The Ice Guys and the Cool Girl, toujours un épisode par semaine sur Crunchyroll. Et d'autres trucs, sûrement. Que
non, bah, oui, c'est bien, c'est précis.
Bah, c'est, je viens de tout, rien n'était écrit, tout est sorti de mon cerveau. Mais, alors que j'ai beaucoup de choses à réfléchir.
On n'écrit jamais rien, si vous racontez.
Tout est improvisé.
Mais oui, bien sûr. Bon, et sinon, il y a quoi de nouveau ce mois-ci ? Comme je vous ai dit, pas grand-chose. Mais allons-y quand même. Le 1er février, il y aura... Ah si, non mais attendez, parce que ça c'est incroyable. Il y aura... Il y aura Ferridge, la saison 1 sur Netflix, qui est un spin-off de On My Block.
Est-ce que ça parle des réfrigérateurs ?
Non, On My Block, c'était une super série qui était dispo sur Netflix, qui parlait de jeunes qui habitaient dans une cité. Ah. Et il faisait un peu une chasse au trésor et tout, c'est trop marrant.
Je m'en souviens, je crois.
J'adorais cette série. Et bien là, c'est un spin-off et j'ai regardé la bande-annonce, ça me donne trop envie.
D'accord.
Donc j'ai trop hâte. Le 2 février, il y aura Classe, saison 1 sur Netflix, série pour ados indiennes, meurtre dans un lycée. Ça ressemble beaucoup à Elite,
oui, mais
n'est-ce
aura...
pas
oui, on va pas regarder. Ne regardez pas.
Le 8 février, il y aura The Exchange, la saison 1 sur Netflix. Ça se passe dans les années 1980, ça parle de deux femmes qui évoluent dans le monde très masculin de la bourse du Koweït.
Kuwait.
J'arrive pas à dire, voilà, Kuwait. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal par contre, pour le coup, ça m'a donné envie, j'ai regardé la bande-annonce aussi. Le 10 février, il y aura Toi chez moi et vice-versa.
Le Pixar.
Avec Reese Witherspoon, j'adore dire les mots pas du tout comme ici.
Witherspoon.
Et Agent Sketcher.
Agent Sketcher.
C'est vrai, du coup, en direct,
Ashton, tu fais exprès. Ashton Kutcher.
C'est Ashton Kutcher.
Et à la fois, ça sonne presque mieux, Ashton Kutcher, parce qu'il y a deux fois le tch-tch.
Moi, j'aime bien aussi.
C'est pas une batterie.
Sur Netflix, c'est un film en mode film d'amoureux de Saint-Valentin. I know. Enfin, je pense. Ouais, je suis pas sûre. Sinon, on a Somebody Has Used to Know sur Prime Video. Comme dans la chanson.
Oui.
Quelqu'un chante ?
Na, 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 na,
je crois que c'est Somebody What I Used to Know. That I Used to Know dans la
oui,
chanson.
C'est vrai.
C'est pas exactement.
Oh,
désolé
vraiment,
de casser vos trucs, mais voilà quoi. La précision.
J'ai l'impression que c'est aussi un film d'amoureux sur Prime Video.
Il y aura une thématique.
Ça, ça ressemble. Février.
Je crois que c'est la thématique, c'est la romance, parce que peut-être qu'il y a genre la Saint-Valentin.
Ah ouais.
C'est vraiment malin.
C'est ouf. Hein.
Ah, on retourne dans le passé.
Du coup, le 14 février, il y aura Chaque fois qu'on s'est aimé, saison 1 sur Netflix. Alors, apparemment, ça parle de deux personnes, Irène et Julio, qui ne cessent de tomber amoureux, de se séparer et de se redonner une chance. Réussiront-ils enfin un jour à être heureux ?
Au bout d'un moment, il faut laisser tomber. Hein.
Oh, mais ça va.
Moi, je crois plus en l'amour.
c'est comme ça qu'on divorce. Je
savais pas que vous étiez mariés, du coup.
Bah oui.
C'est marrant comme manière de l'apprendre.
Non mais c'est le, c'est... Enfin, je sais pas quoi dire. jeudi 9 février. Alors attention, il y aura la
on
saison 4
quoi.
De You ouais. qui arrive. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a l'air encore bien, bien malsain. Malsain.
Ah, c'est le gars flippant qui regarde les gens, non?
Oui, ouais, il se contente pas de regarder
girl.
Les gens.
Là, non, il ne contente pas.
T'as dit Gossip Girl ?
Oui, c'est le cas de Gossip Girl.
Il joue dans Gossip Girl. Aussi.
Ah, pardon, je croyais
qu'il y
avait un
il va vraiment falloir trouver un scénario dans cette saison 4, j'espère.
Alors, apparemment, à la fin de la saison 3, il était parti à Paris. Et puis finalement, il s'est retrouvé à Londres.
Attention, la saison 4 se passe à Londres.
Waouh.
Finalement, il s'est retrouvé à Londres. Il est professeur d'université. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils embauchent leur professeur d'université, mais regardez leur casier judiciaire.
Oui,
regardez
mais il voyage,
si...
du coup, il
regardez
barbe,
s'il
n'y
a pas d'avis
pas.
De recherche mais sur petit, eux, faites une photo, moustache. J'en sais rien.
Faites une photo.
Non, mais le mec est sûrement recherché par Interpol et personne ne le trouve. Hein. Alors
c'est
qu'il
Xavier
est prof...
de Ligonnès depuis le début.
Alors qu'il est prof à Oxford. Non, mais soyons un petit peu honnêtes et sérieux. C'est un personnage qu'ils font passer pour quelqu'un de sexy et de cool, alors que c'est un tueur en série, psychopathe. Et ça ne va pas. Bah, je trouve ça pas bien.
Mais c'est très souvent le cas.
Les maladies mentales ou le fait d'être psychologiquement déviant ou d'avoir des problèmes, c'est pas sexy, hein, les gars. C'est pas cool. Sinon, le 16 février, il y aura Carnaval Row. Alors, vous avez peut-être oublié cette série. Moi, je l'avais oubliée. Et bah, il y aura la saison 2.
C'est quand ils ont des petites ailes, là.
Mais qui a demandé la suite.
Écoute,
je crois que j'ai pas fini la première saison, moi.
Moi, j'ai tout vu. Il y avait Orlando Bloom dedans.
Bah oui. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé.
Même a oublié qu'il faisait cette série, je suis sûr.
Bah non, parce qu'il joue dans la saison 2.
Oui, mais
il
n'y
avait pas Cara de...
Si.
J'ai oublié.
De la Vine.
De la Vine.
Oui, mais un jour, on a dû les appeler en disant « Allez, vous êtes prêts pour la saison 2 ?» Quoi ?
La saison 2
de quoi ?
Ah oui, c'est vrai.
C'est ça.
J'avais oublié.
Sinon, le 17 février, il y aura J-Hop in the Box. C'est un docu sur Disney+, sur un des mobs de BTS.
Il est dans une boîte ?
Apparemment.
J'avoue que...
C'est dans la
il
boîte.
Il a une heure pour s'échapper.
Mais en français, en anglais, ils le disent aussi, tu crois ?
Bah, je sais pas, peut-être.
Il y avait une émission sur Gulli qui s'appelait In the Boîte. C'est peut-être pareil.
C'est peut-être un lien avec
Gulli. Je suis pas sûre, vraiment. On parle de pitié, c'était la pote Gulli.
C'est tout pareil.
Sinon, la même date, sur Prime Video, par contre, il y aura Star Trek Picard, saison 3. Alors, moi, je crois que j'ai regardé que la saison 1, malheureusement.
Je sais pas, moi, quand je dis Star Trek Picard, à chaque fois que je pense à du surgelé, je peux pas faire autrement.
Vraiment.
Bah.
Ah là là, la société de consommation, quoi, ouais, est à U. Et le 24 février, il y aura le BDE. Est-ce que le BDE, c'est le bureau des légendes ?
Non,
bureau,
sinon ce serait
bureau
BDL.
Des étudiants. Bye.
Ah, le bureau des étudiants, mais c'est quoi ? Ah, c'est un nouveau BDE, film.
C'est le foyer à la fac.
Mais je sais, mais il dit souvent le BDE au Japon, mais je ne savais pas que ça s'utilisait en France surtout. Bureau des élèves.
Ah oui, mais je pense qu'au Japon, ça...
Non, le BDE, ça se dit.
C'est une traduction,
oui. Oui, bureau des élèves.
Bah, non, c'est étudiants.
Des étudiants,
coup,
mais c'est pour ça que j'ai oublié bureau des étudiants. Et ça sera sur Prime Video, je ne sais pas ce que c'est. Il y aura Michael Youn. Ouh là là, ça donne très pas
envie. C'est son nouveau film qu'il réalise.
Il est drôle, Michael Youn.
Ses films sont bien en général.
Tu fais une tête genre non.
Il se moque pas de la tête des gens quand tu fais des
Par
films.
Par la maman.
Non.
Oh, voilà,
ça les
rêves. Ce que j'avais entendu. Qu'est-ce qu'on fait pour le sujet du mois ?
On a dit toi, moi et vice versa. Toi, chez moi et vice versa.
Ça marche, c'est noté.
Avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher et Reese Witherspoon.
Promis, on va travailler
sur la prononciation.
Pour les respecter, tout simplement.
On va mettre des crayons dans nos bouches et dire des trucs.
J'aime trop vous dire par poum.
Bah, c'est bien parti pour les respecter.
Mais ça va pas bien.
Ton humour est irrésistible.
Ça marche bien.
T'as pas un autre slogan.
C'était pour changer
avec
du
avec 4 boutons.
Ah zut.
Non, il y a quand même le padum tch.
Faudrait
non,
changer toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Moi j'aimais bien quand c'était genre. Toutes les semaines. Quand c'était le nouvel an ou des trucs comme ça.
Quoi ?
Ah oui. L'anniversaire aussi, c'était pas mal l'anniversaire.
T'aimes bien quand il y a des trucs qui te surprennent.
Ah là là. Bye bye.
Ainsi se termine ce 27e épisode du Récapito. On espère que vous avez passé un bon moment en les écoutant. C'est un épisode plus court que d'habitude parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Le mois prochain, on parlera bien sûr de...
des trucs qu'on a regardés.
J'ai oublié.
Toi chez moi et vice-versa.
Toi chez moi et vice-versa. Merci Damien.
Là, je sais pas.
Je sais plus où je suis. Comme d'habitude, vous pouvez mettre plein d'étoiles pour nous aider à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter et surtout sur notre blog plaid.fr. On se retrouve donc le mois prochain. Merci Mathilde.
Merci.
Merci Damien.
Merci beaucoup à toi.
Et bonne continuation. Allez, cordialement. Bisous.
Bye bye.
Ciao, ciao.